Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte. Soyez ici chez vous, dans cette maison, où nous sommes venus pour nous ouvrir à la présence de Dieu, à sa parole, dans la lecture de la Bible, et pour le célébrer par le chant et la prière. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Bienvenue et merci en particulier à Sarah Kim pour son accompagnement musical ce matin. Prions. Éternel Dieu de la vie, aujourd'hui fais de chacun, chacune de nous un semeur de sourires. Que nos sourires soient rieurs et jamais ironiques, radieux et jamais dédaigneux, accueillants et jamais fermés. Donne à notre sourire le miracle d'apporter un peu de force aux affaiblis, un peu de confiance aux désespérés et aux prisonniers, un peu de bonheur aux isolés et aux solitaires. Éternel Dieu de la vie, fais de chacun, chacune de nous, des porteurs d'air. Amen. Nous ouvrons ce culte en prenant le premier chant du livret qui est inséré au début du psautier français. Je vous invite à vous lever. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Éternel avec un extrait du psaume 84. Comme elles sont aimées tes demeures, Seigneur de l'univers. Je languis à rendre l'âme après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Le moineau lui-même trouve une maison et l'hirondelle un nid pour mettre sa couvée près de tes autels. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force, de bon cœur il se met en route. Seigneur de l'univers, heureux l'homme qui compte sur toi. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 84 que vous trouverez dans le psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fais cela et tu vivras. Prions ensemble. Éternel, quand on est en prison, on n'est rien. Quand on n'est rien, on a envie de te parler. Mais quand on n'est rien, on ne pense à rien. Alors, on ne dit rien. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai rien, si c'est le vide, le désert tout au fond de moi. Mais ce rien, je te l'offre tout de même, parce que c'est le mien. Et puis, il pèse si lourd, mon rien. C'est dur à porter seul un rien. Un rien qui me fait mal au cou. Un rien qui me brûle les yeux. Un rien qui me donne des sueurs froides. Un rien qui me donne mal au ventre. Un rien qui me scie les jambes. Un rien qui ne me rend pas du tout courageux. Un rien qui me rend la bouche pâteuse. Ce rien, Seigneur, il m'assomme. Prends-le pour me décharger. Il est si lourd, ce rien. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. L'Éternel vit en nous, que son esprit anime chacun, chacune de nous. Nous croyons en sa force qui vaincra notre faiblesse, en sa miséricorde qui nous relève de notre misère, en sa vérité qui confond nos mensonges, en sa liberté qui ouvre nos différentes prisons. C'est pourquoi le dernier mot à notre sujet ne sera pas le nôtre, mais le sien. celui de son pardon, celui de son amour. Et l'Éternel nous redit ce matin, une fois encore, « Ma grâce te suffit ». Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, je crois qu'il nous a aimés le premier. Avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance, et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que, malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour et que son esprit nous anime et nous porte. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons aujourd'hui dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 1 à 3. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux, de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous avez un corps. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Et nous prendrons maintenant le cantique numéro 171 dans le recueil Louanges et prières. Cantique 171, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Éternel Dieu de la vie, merci pour ta parole qui nous rejoint exactement là où nous en sommes, avec nos interrogations, avec nos angoisses, avec tout ce qui nous enferme d'une façon ou d'une autre, avec tous nos riens parfois trop lourds à porter. Merci pour ta parole qui nous porte là où nous nous découvrons démunis, qui nous accompagne quand nous nous sentons seuls, qui nous console quand nous sommes dans le chagrin, qui nous relève lorsque nous sommes tombés à terre. Donne ton souffle ici et maintenant à celles et ceux qui parlent comme à celles et ceux qui écoutent. Que ta parole trace son chemin en chacun et chacune de nous. Amen. Amis, frères et sœurs, chaque premier dimanche du mois, l'offrande recueillie pendant le culte est dédiée à l'entraide. Et l'entraide, c'est le volet diaconal de l'Église. Elle s'occupe d'aider les plus petits, autrement dit, celles et ceux qui sont dans le besoin. Et que ce soit à l'échelon local, comme c'est le cas dans notre paroisse, ou à l'échelon régional ou national, les entraides veillent avant tout sur la nécessité de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et là où elles sont placées, elles sont attentives à toute forme de pauvreté et depuis la pandémie, aux nouvelles formes de misère. De nombreuses entraides, presque toutes me semble-t-il, sont solidaires des personnes détenues en prison. Elles leur viennent en aide suivant les besoins que parfois ces personnes expriment auprès des visiteurs ou des aumôniers de prison. Jamais directement, mais toujours en lien avec les équipes d'aumônerie et les responsables des établissements. La prison fait partie du paysage urbain, même si on ne sait pas toujours où elle se situe. Elle ne fait pas recette dans les discussions à bâton rompu. C'est souvent un sujet de spécialiste, un sujet sensible, pour ne pas dire tabou, qui divise les gens entre les partisans d'une justice répressive et sécuritaire, la prison visant à punir à tout prix, en extirpant le fautif de la société, et les partisans d'une justice plutôt réparatrice qui cherche des alternatives pour une meilleure réinsertion des contrevenants dans la société. Alors la prison ne fait pas non plus recette dans la Bible. Le mot prison est présent 69 fois et le mot prisonnier 77 fois, selon la concordance de la traduction œcuménique de la Bible. Et les versets qui font allusion à la prison en tant que sujet de compassion sont ceux que nous connaissons sans doute le mieux, en particulier dans l'évangile de Matthieu. La parabole dite du jugement dernier mentionne « J'étais en prison et vous êtes venu me voir », avec son contraire « J'étais en prison et vous n'êtes pas venu me voir ». Et l'exhortation de la lettre aux Hébreux, ce fameux verset 3 du chapitre 13 que nous avons lu, « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez vous-même en prison ». Et c'est cette exhortation que je voudrais partager avec vous. Nous connaissons quelques prisonniers célèbres dans la Bible. Joseph, fils de Jacob, après ses démêlés avec Madame Potiphar. Samson, ou Jérémie, ou Jean-Baptiste, Pierre, Paul et Silas. Il y a les prisonniers célèbres qui sont autant de martyrs de la foi, Marie Durand, George Fox, le fondateur des Quakers, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King. Et nous pourrions bien sûr allonger la liste avec tant d'autres connus ou ignorés. Et dans ce cas, je fais allusion aux innocents qui sont en prison pour avoir été dénoncés pour tout ce qui fait soit leur identité, leur religion, leur opinion, leurs engagements. Alors il existe des associations spécialisées pour défendre de telles personnes et aussi de telles causes. Et d'ailleurs, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison », il parle à ce moment-là des chrétiens qui subissent des persécutions pour leur foi. Et il appelle les autres chrétiens libres de ne pas les abandonner et de garder avec eux le lien de la prière, non pas simplement d'une façon abstraite, mais au contraire, en imaginant que ce sont eux-mêmes qui sont en prison. Mais en y faisant bien attention, l'auteur de cette lettre dit tout simplement « ceux qui sont en prison ». Et comme le précise le pasteur et théologien Paolo Ricca, dans un article destiné aux aumôniers de prison, je cite « innocents et coupables, ingénus et rusés, bons et méchants, tous sans distinction. Car ici, ce n'est pas la qualité de la personne qui compte, c'est la condition de prisonnier. Le prisonnier en tant que tel, c'est lui qui fait l'objet du souvenir de l'Église. Fin de citation. Il s'agit alors non seulement de se souvenir des croyants, toutes confessions confondues, qui sont en prison, non seulement d'eux, mais aussi de tous. Alors, qui sont celles et ceux qui sont dans les prisons de notre pays? Ce sont des personnes qui, a priori, ont enfreint d'une façon ou d'une autre les règles de la société, qui ont transgressé la loi, et cela va du plus simple délit au crime le plus monstrueux. Mais c'est un procès en justice qui déterminera leur culpabilité ou leur innocence. En attendant, elles sont incarcérées. Alors c'est difficile de voir dans le prisonnier autre chose qu'un cas. Eh bien, souvent, ce qu'il a fait cache ce qu'il est. Et tout est fait pour que la vie antérieure soit effacée. Le numéro d'écrou participe à cet effacement, même si les personnes détenues sont appelées par leur nom. Et parfois, c'est l'acte commis qui donne l'identité de la personne incarcérée. Il s'installe alors une hiérarchie interne dans la société carcérale, avec ses codes et ses règles. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, écrit, « Souvenez-vous ». Ce souvenir, ce verbe est central dans la Bible. La Bible qui raconte comment Dieu fait mémoire de génération en génération. Et l'Église universelle, elle aussi, fait mémoire, elle se souvient de tout et de tout le monde. Chaque dimanche est le souvenir de la résurrection de Jésus le Christ. Chaque fête rappelle une étape ou un passage, Noël, Pâques, Pentecôte, ou alors la transfiguration, ou la célébration de la scène, ou le baptême, le culte. L'Église est non seulement le lieu du souvenir, mais aussi le lieu de l'actualisation du souvenir. S'il y a de la place dans notre prière pour celles et ceux qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance, comme le dit si pudiquement notre liturgie, alors il y a aussi de la place pour celles et ceux qui sont en prison. C'est d'ailleurs une des peurs les plus tenaces à l'intérieur du monde carcéral. Que celles et ceux qui y sont, soient oubliés, effacés de la mémoire de ceux qui sont libres. Une incarcération peut durer de nombreuses années. Les familles s'organisent au mieux pour rendre visite ou correspondre, si elles en ont le droit. Parfois, c'est impossible. Mais l'Église prend alors le relais pour lutter contre l'effacement. Elle le fait par le biais de la prière, personnelle ou communautaire. Prier, c'est se souvenir, c'est ce que nous appelons la prière d'intercession. Et Dietrich Bonhoeffer écrivait dans une lettre de prison du 21 août 1944 « Pour moi, c'est souvent un grand soulagement de penser, le soir, à tous ceux dont je sais qu'ils intercèdent pour moi. » Et je suis convaincue de devoir beaucoup de protection dans ma vie à la prière de personnes connues ou inconnues. L'auteur de la lettre aux Hébreux ajoute « comme si vous étiez prisonniers avec eux ». Comme. C'est l'essentiel. Alors bien sûr, le mieux c'est de ne jamais être en prison. Mais, ajoute Paolo Rica, le souvenir de l'Église est tissé de solidarité. Et ce n'est pas un souvenir qui garde les distances, bien au contraire, c'est un souvenir qui solidarise. Ce souvenir, c'est se rendre présent, comme si vous étiez prisonnier vous-même. Autrement dit, c'est penser à celles et ceux qui sont en prison comme on penserait à vous si vous étiez vous-même en prison. Lorsque nous nous souvenons, nous disons « Ils sont là, ils sont présents, ils sont vivants, ils existent. » Alors l'Église, d'une certaine façon, se souvient de celles et ceux qui sont en prison en déléguant une personne, l'aumônier qui intervient, pour le protestantisme du moins, au nom de la Fédération protestante de France. L'aumônier n'est pas seul, il a souvent une équipe avec lui. Et ensemble, ils sont des porteurs d'air, en ravivant l'espérance, en donnant du souffle dans un endroit réduit. Mais quelle place faisons-nous à l'aumônier en église, en retour ? Quelle est la place, quelle place tient-elle la prison dans nos conseils presbytéraux ou dans nos vies d'église ? C'est l'aumônier qui incarne par sa présence et par sa foi le souvenir de l'Église auprès des personnes détenues. Mais l'inverse est-il vrai ? Un aumônier d'un quartier femme d'une maison d'arrêt a partagé ceci lors d'une formation. Derrière les barreaux de la prison, il y a des personnes aimées et aimables, des personnes dignes d'être respectées, quel que soit leur délit ou leur crime. Et tout en n'approuvant pas les actes commis, les aumôniers ne sont pas envoyés par l'Église pour être juges, mais pour annoncer la bonne nouvelle, celle que Dieu les aime d'un amour infini et que c'est cet amour-là qui les sauve. Se souvenir de tous sans distinction, lutter contre l'effacement dans la prière solidaire, rendre les absents présents, c'est là toute la mission de l'Église d'une part, mais c'est aussi la mission de tout croyant, quelle que soit sa confession. Croire que celles et ceux qui sont en prison sont des sœurs et des frères dans la foi comme en humanité. Dans l'une de ses lettres à l'Église de Corinthe, l'apôtre Paul compare l'Église du Christ à un corps dont les membres, même les moins nobles, ont un rôle à jouer. Et lorsqu'un membre de ce corps souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Alors, si nous pensons que les personnes détenues, quelle que soit la raison de leur détention, et peut-être plus encore si celles-ci sont injustifiées, restent dans la foi nos frères et nos sœurs en Christ, alors l'Église a une partie d'elle-même en prison. Et dans la foi qui est la nôtre, nous croyons que lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, Jésus le Christ est au milieu d'eux, et bien cela vaut pour les personnes libres comme pour celles qui sont détenues. Aux yeux de Dieu, tous sont ses enfants bien-aimés. Et quel que soit leur délit ou leur crime, les personnes détenues disent quelque chose du corps souffrant du Christ. Leurs cris ne sont pas toujours audibles et parfois ils se transforment en plaintes sourdes ou bien il n'y a que le silence. Un silence qui vient juste dire par un regard ou par une main posée sur une autre « Ne m'oublie pas, ne m'ignore pas. Souviens-toi de moi comme si tu étais à ma place. Viens me rendre visite si tu le peux, mais si tu ne le peux pas, alors pense à moi. » Comme si j'étais à côté de toi, près de toi. Alors comment pouvons-nous imaginer la prison si nous n'y sommes pas ? Bien sûr, on ne va pas provoquer une situation extrême pour à son tour se retrouver en prison comme détenu. Mais ce verset nous demande d'être attentifs à celles et ceux qui sont en prison comme si nous étions nous-mêmes des prisonniers. Et nous-mêmes, nous connaissons des situations où nous nous sentons prisonniers. Il n'est pas toujours nécessaire d'être physiquement derrière des barreaux. Nous connaissons des moments de vide, des temps de solitude extrême, où l'avenir ne veut plus rien dire, où la vie n'a plus de sens. Nous connaissons ces moments de chagrin ou de révolte ou de dégringolade morale, où nous cherchons parfois à faire cohabiter l'alcool, avec les tranquillisants. Nous perdons parfois tout amour, toute espérance, voire toute foi, et nous ressemblons alors à ces prisonniers qui souffrent. Nous rejoignons ces prochains, ou plutôt ce sont eux qui se font proches de nous, parfois sans le savoir. Mais nous savons à ce moment-là que personne ne peut ni ne doit être mis de côté. Le Christ nous rejoint dans toutes nos prisons, qu'elles soient humaines, qu'elles portent le nom de solitude, de souffrance, d'angoisse, de violence, de mépris, de refus de pardonner, de mensonge, ou qu'elles soient de pierre et de béton comme les maisons d'arrêt, les centres de détention, les centrales, ou des geôles bien plus infâmes et infamantes, innommables dans certains pays à travers le monde. Alors pour rejoindre l'autre dans sa prison, il est important et même nécessaire de connaître les nôtres, au sens propre comme au sens figuré. Mais il est aussi nécessaire et vital pour nous-mêmes, déjà, pour commencer, de nous savoir aimer jusqu'à ce point obscur de notre être et de notre histoire, pour comprendre que l'autre aussi est aimé de Dieu exactement comme je le suis. C'est ce que nous appelons la grâce. Alors, et là j'emprunte les derniers mots à un collègue, si on demandait à Dieu quel est celui de ses enfants qu'il préfère, il répondrait sans doute, comme ce vieux père qui a de nombreux enfants, « Celui que je préfère, c'est le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est celui qui est loin jusqu'à ce qu'il revienne. C'est celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse. C'est celui qui est prisonnier jusqu'à ce qu'il soit libéré. C'est celui qui est éprouvé jusqu'à ce qu'il soit consolé. Mon ami, mon frère, ma sœur, souviens-toi de celui qui est en prison, comme si toi-même tu étais en prison. Amen.
Thank you.
dans les recueils louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 265, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Cantique 265, je vous invite à vous lever. Prenez place. Et donc je passe la parole à Gilles Devaux, président de l'Entraide.
Oui, bonjour à tous. Merci Agnès. Qui vient donc de présider notre culte, et puis merci également à Sarah qui nous accompagne en musique. Donc les événements de la semaine qui arrive, mardi 8, c'est la soirée théophile, donc ça se passe à la maison presbytérale, et de 20h à 22h, et donc vous serez accueillis par notre pasteur, Béatrice Clairaut-Mazir, et par le professeur Jean-Pierre Clairaut, qui vont vous proposer de débattre sur le thème de la trahison. Mercredi 9 février, c'est cette fois-ci le groupe des étudiants et des jeunes actifs qui va se réunir. Alors, c'est cette fois-ci à partir de 19h et ici même au Temple. Donc, c'est toujours un débat sur un thème d'actualité. Et ils seront rejoints par les jeunes actifs, donc par le pasteur Vincent Hubach, qui est toujours actif et toujours jeune, voilà, et qui viendra animer et participer à ce débat. Le lendemain, jeudi 10 février, donc comme vous avez l'habitude maintenant, c'est la pause spirituelle. Alors, c'est au Temple, de 12h30 à 13h30, et elle sera, comme à l'habitude, animée par notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Et les derniers rendez-vous, ce sera pour samedi 12. Alors, un rendez-vous le matin, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir retrouver le chœur de l'oratoire en salle mono, de 10h à 11h30 pour pouvoir répéter les psaumes et les cantiques du lendemain, hein, du culte du lendemain. Donc n'ayez pas peur, hein, le chœur ne demande pas d'être sur un niveau de chant extraordinaire, voilà, c'est pour répéter, pouvoir chanter tous ensemble le lendemain. Et l'après-midi, donc samedi après-midi, de 16h à 17h au temple, c'est le concert spirituel mensuel. Donc nos pasteurs accueilleront Jordan Avril et Frédéric Aubin, qui interpréteront des œuvres de Eric Evazen au piano et à la trompette. Alors, pour ce concert spirituel, l'entrée est gratuite. Par contre, attention, un pass valide vous sera demandé à l'entrée, par contre. Hein, voilà. Pour les événements, rien de plus. Donc, du coup, écoutez, je vous souhaite encore à nouveau à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Et nous allons passer avec les diacres à...
Juste peut-être, merci Gilles, pour rebondir sur ta prédication, je ne sais pas si je rebondis, mais dimanche, Gilles, reste avec moi, dimanche, donc nous avons samedi, nous avons aussi dimanche, nous avons Parole d'amour qui est consacrée à l'amitié. Dimanche prochain, donc la dernière fois Parole d'amour était consacrée à la solitude, nous avons eu énormément de monde venant sur le thème de la solitude, la dernière fois de Parole d'amour, cette fois-ci ça sera sur l'amitié, donc venez nombreux également, et avec l'entraide, nous essayons de reprendre, mais nous n'avons toujours pas la possibilité de reprendre les pots d'amitié deux fois par mois, nous en rêvons de reprendre tous ces pots d'amitié. Nous essayons de faire le maximum sur l'accueil quand vous arrivez ici. Mais vraiment, cette fraternité est importante. Donc, dimanche prochain, venez nombreux sur l'amitié. Hein, parce que tout le monde va parler d'amour avec la Saint-Valentin. Mais dimanche, on va parler aussi d'amitié. Également, tu ne l'as pas dit, Agnès, je crois. Agnès, c'est aumônière de prison. Et dans le dernier feuille rose, dans la dernière feuille rose, elle fait un témoignage, justement, sur cette charge que tu as pour nous. Et notamment sur le secret en prison. Voilà. Maintenant, l'offrande est à l'entraide.
Et on a vraiment besoin de votre solidarité sur tous les plans, parce qu'entre la prison ce matin, la trahison mardi soir, la peste mercredi soir, heureusement qu'on a Parole d'amour dimanche prochain. prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, unis les uns aux autres, nous sommes devant toi. Nous joignons nos mains pour dire que nous sommes devant toi avec les autres, avec les solitaires, les isolés, les délaissés, avec les exilés et les prisonniers, avec toute personne dont l'équilibre est précaire, avec les familles en deuil, avec les personnes en souffrance de quelque nom que s'appelle leur souffrance, avec celles et ceux qui luttent contre toute forme d'injustice. Nous te prions pour notre monde et ses blessures, infligées en particulier par les intempéries et les catastrophes naturelles. Nous te confions particulièrement le pays de Madagascar et ses habitants qui subissent les conséquences du cyclone, mais également tous les pays impactés par ce cyclone. Nous te confions les peuples et les gouvernements. Donne, en les temps qui sont les nôtres, le sens du discernement pour les paroles à dire, les décisions à prendre, les actes à entreprendre. Et permet que chacun, chacune, là où il est, là où nous sommes, nous soyons de ces porteurs d'air qui ravivent l'espérance, sinon par la présence, en tout cas par la prière, l'intercession, l'action de grâce, le souvenir. Nous te prions pour celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, et nous te les nommons dans le profond de nos cœurs. Nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous-même vous étiez en prison. Amis, frères et sœurs, recevez encore la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. L'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Très bon dimanche à chacun, chacune.